BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est ce qu'a généré la filière boulangerie-pâtisserie en France en 2023. Au total, 30 000 points de vente répartis sur tout le territoire. C'est un secteur hautement concurrentiel où l'innovation est cruciale pour se démarquer. J'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Jean-Marc Conrad. Il est directeur du pôle franchise et développement international de Marie Blacher. Ce sont ces boulangeries de rond-point qu'on retrouve à chaque sortie de ville de province. Également à nos côtés, Hugues Mestro, il est créateur de la boulangerie de quartier Le Pain Retrouvé. Et notre expert, Julien Rebel, il est directeur général de Retail Design Altavia Palace. A tout de suite.
Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.
Heureuse d'accueillir à ce micro Jean-Marc Conrad. Bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes directeur du pôle franchise et développement international de Marie Blacher. À nos côtés également Hugues Mestro. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes créateur et co-gérant de la boulangerie de quartier Le Pain Retrouvé et notre expert Julien Rebel. Bonjour.
Bonjour Noémie.
Vous êtes directeur général retail design chez Altavia Palace. Alors, le groupe Blanchère a été fondé en 1985 par Bernard Blanchère, un maraîcher.
Blacher.
Un maraîcher. Et en 19... Ardéchois. Ouais. L'histoire de l'entreprise commence avec la vente de fruits et légumes avant de s'étendre à la boulangerie avec une première ouverture en 2004 à Salon de Provence. En 2023, soit presque 20 ans plus tard, Marie Blacher a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 900 millions d'euros en 2023 avec plus de 790 boulangeries. Et l'expansion ne s'arrête pas là parce que le groupe a prévu de se développer en 2024. Alors selon Bernard Blacher, la boulangerie c'est le paradis. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Qu'est-ce qu'il entend par là ?
Il entend par là qu'actuellement, il y a une forme d'effervescence autour de la boulangerie. C'est un peu le métier que tout le monde a envie de faire et tout le monde s'intéresse à ce métier-là. Il y a 15 ans en arrière, on s'intéressait à la restauration et à la restauration rapide, notamment. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, les mœurs ont un peu évolué, les temps ont un peu changé, les habitudes de consommation ont un peu évolué. Et c'est vrai que finalement, on a une forme de restauration boulangère. Donc il y a eu... Il y a actuellement un certain attrait vraiment pour ce métier et tout le monde veut venir jouer dans cette cour et tout le monde a envie de partager et de participer à la fête. Et Bernard Blacher veut dire par là qu'effectivement il y a beaucoup d'appelés mais qu'il y aura très peu d'élus qu'à la fin de toute façon, pardonnez-moi la métaphore, mais il y a un gâteau et je pense qu'aujourd'hui le gâteau il a maturité et finalement on va faire que le partager et on sait très bien qu'à un moment donné il faut quand même une quantité de nourriture suffisante pour survivre et ceux qui n'auront pas assez de parts de gâteau malheureusement seront obligés de faire des choix, des arbitrages, des alliances. Ça nous rappelle un peu la politique, c'est un peu ça et c'est un peu le message qu'il a voulu envoyer. Attention, ne croyez pas que c'est que le paradis, mais tout le monde ne viendra pas au paradis.
C'est un secteur hautement concurrentiel, vous faites bien de
le préciser.
D'ailleurs, Marie Blacher comporte la dénomination boulangerie, ce qui n'est pas le cas des enseignes comme Micaline ou encore Paul. La différence, c'est que vous préparez la pâte à pain sur place et eux n'opèrent que la cuisson sur place. Alors, les boulangeries sont devenues en quelques années des acteurs incontournables de la pause déjeuner. Dans chaque point de vente Marie Blacher, près de 4 mètres linéaires sont alloués au snacking. Ça représente quelle part du chiffre d'affaires ?
Le snacking aujourd'hui c'est environ 30% de notre chiffre d'affaires. On est en train de travailler justement sur des nouvelles gammes, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. On va essayer d'améliorer, mais aujourd'hui 30-31% à peu près de snacking et on a globalement 35% de pain et le reste c'est essentiellement du sucré.
Et ce ratio il est en augmentation ?
Il est plutôt en augmentation, oui. Il est plutôt en augmentation.
Hugues Mestro, vous êtes le créateur co-gérant d'une boulangerie de quartier à Paris, Le Pain Retrouvé, qui existe depuis 2015. Tout est fait 100% maison, à base de farine ancienne, sans additifs ou colorants alimentaires. Par contre, on ne retrouve pas de baguette chez vous. Souvent, il faut patienter dans une file d'attente avant de pouvoir passer la porte. Comment vous arrivez à vous différencier de vos concurrents ?
On s'identifie avec des valeurs très fortes de traçabilité de notre sélection de nos produit, c'est-à-dire avec des matières premières nobles, farine AOP, beurre AOP, pardon, farine label rouge, farine bio, du sucre roux, des fermentations qui sont longues et donc qui apportent du goût et des arômes à nos produits. Et tout ça jumelé avec une présentation et un service qui est de proximité avec nos clients.
Il me semble que chez vous, la segmentation de production, ce sont les pains, représente 30% de votre activité.
Oui,
la segmentation de votre production n'est pas du tout la même. Hein. C'est-à-dire que le pain représente le plus gros de votre activité. Le pain et la viennoiserie.
Le pain et la viennoiserie, effectivement, représentent quasiment 60% de notre activité.
Et pour le reste ?
Et le reste, on est à peu près à 40% restant sur la viennoiserie et sur le traiteur et la pâtisserie, qui n'est pas de la réelle pâtisserie puisqu'on est sur un principe de tarterie boulangère, puisqu'on n'a pas de vitrine réfrigérée et donc on est à 100% sur des produits qui sont cuits. Donc on accompagne en fait des plats comme de la focaccia en traiteur et de la pâtisserie en tarterie.
Alors le secteur boulanger entre en concurrence frontale avec la restauration rapide. Marie Blacher se présente comme la troisième enseigne de fast-food derrière McDonald's et Burger King. Comment vous différenciez-vous de ces acteurs traditionnels ?
Déjà principalement nos produits principaux ce sont pas. Alors si on parle de traiteur, effectivement on fait des pizzas, on fait beaucoup de pizzas, on fait quelques millions de pizzas également tous les mois, hein, il faut le savoir. Mais on a les pizzas, on a les croque-monsieur, on a diversifié si vous voulez la gamme et on fait essentiellement de la restauration, comme disait tout à l'heure Hugues, on fait essentiellement de la restauration boulangère. Et aujourd'hui les mouvements tendent plutôt vers nous et c'est vrai qu'aujourd'hui tous les fast-food américains, en tout cas les chaînes américanisées, font essentiellement du burger. Donc nous on n'est pas focusé sur le burger, mais on propose une gamme de sandwichs, également une gamme de produits type wrap, type salade, type pokawa, etc. On arrive à mettre en place des pokés, des choses comme ça qui font que on élargit notre offre. Donc en élargissant l'offre et en ayant une facilité d'accès, si vous voulez, nous sommes essentiellement en province, on a peut-être l'occasion d'en parler également. Donc forcément, les problématiques ne sont pas les mêmes qu'à Paris ou dans les centres-villes.
Alors vous ouvrez deux boulangeries par semaine, si mes renseignements sont exacts, à peu près. Est-ce que c'est pour asphyxier vos concurrents ? On se souvient de la technique employée par McDonald's dans les années 90 et 2000 pour écraser l'enseigne Quick, qui avait d'ailleurs marché. Est-ce que vous voulez faire la même chose ?
Alors pas du tout, parce que si vous connaissiez Bernard Blacher, il n'est pas du tout comme ça, vraiment pas. Donc non, on ouvre parce que les besoins sont là, parce que effectivement, même certains élus sont quand même demandeurs d'avoir des boulangeries Marie Blacher. À l'inverse, effectivement, de ce que font nos confrères, on va dire artisans, on propose nous des boulangeries qui sont assez grandes en taille, c'est entre 350 et 400 mètres carrés, avec des volumes de chiffre d'affaires intéressants et avec de la vente additionnelle, c'est-à-dire de la vente composée et combinée. Donc ce qui permet aux consommateurs d'avoir des offres de prix qui sont très compétitives. Et ça ne vous a pas échappé qu'en ce moment, le pouvoir d'achat, c'était quand même, je pense, le souci principal de tout le monde.
C'est vrai que vous avez besoin de cette superficie, comme vous l'avez dit, de 300 à 400 mètres carrés, parce que vous présentez vos produits comme au marché, d'où l'implantation périurbaine.
Oui.
Donc, vous n'envisageriez pas de venir à Paris avec une telle superficie ?
Alors, tel que c'est fait aujourd'hui, non, parce que pour des problématiques de loyer, c'est-à-dire de ce qu'on appelle de taux d'effort, bien évidemment, mais on réfléchit aujourd'hui à un format qui soit plus city, qui soit plus câblé ville, parce qu'il y a la demande des élus également qui nous demande de venir repeupler un petit peu les centres-villes. Donc on y réfléchit, on joue le jeu. Vous dire que ça sera fait demain, en tout cas, quand on va le faire bien, comme tout ce que l'on fait. On essaie de le faire correctement et on le fera de manière réfléchie à pouvoir satisfaire les clients. Parce que l'important, c'est que le client final, soit que les uns ou les autres, qu'on soit indépendant ou chaîné, c'est de satisfaire le client.
Vous parlez des cafés Marie Blacher pour séduire la clientèle citadine.
Oui, on a créé un concept qui s'appelle les cafés Marie Blacher, que l'on teste aujourd'hui dans ce qu'on appelle le travel retail, c'est-à-dire dans des flux à forte densité, comme les autoroutes, comme les gares. On a aujourd'hui de nouveaux franchisés comme Leclerc, par exemple les stations Leclerc. On travaille avec Total, on travaille avec Avia, on travaille avec EG Group, avec BP, voilà, on a différents acteurs, on fait des tests, on est installé dans des gares comme Rouen, comme Le Havre, et c'est vrai que...
C'est pour séduire aussi une clientèle plus jeune ? pour concurrencer des enseignes comme Starbucks, par exemple?
On a une clientèle qui devient de plus en plus jeune et qui fait cette démarche de venir dans les boulangeries, parce qu'ils, notamment les étudiants, parce qu'ils ont compris que finalement, je vous donne un exemple, on a lancé un menu à 5 euros où vous pouvez acheter un sandwich, un croque-monsieur, une boisson et un dessert pour 5 euros. Et donc c'est assez... C'est assez copieux. C'est d'un point de vue satiété, on arrive à satisfaire tout le monde. Et forcément, la dynamique des étudiants, qui aujourd'hui, eux, ont environ en moyenne 5 euros pour déjeuner, se tournent vers des gens comme nous.
Hugues Mestreau, les prix des matières premières ont augmenté. Le fait maison demande des bras et vous offrez de la qualité. Comment faites-vous pour offrir un prix accessible aux consommateurs?
C'est un calcul du quotidien, c'est une gestion du quotidien aussi. C'est un peu comme le lait sur le feu, c'est qu'on doit faire attention à chaque matière première qui rentre dans notre boutique, tout en privilégiant une qualité de sélection. Et ensuite, c'est un calcul de masse salariale, de charges d'identification à quelle partie correspondent les matières premières pour pouvoir ensuite avoir un minimum effectivement de retour financier.
Merci Hugues Mestreau. On va passer tout de suite au focus de la semaine. Et cette semaine, Julien Ribel, on va parler des clés de succès des enseignes spécialistes du frais.
Oui Noémie, on parle des enseignes alimentaires qui ne sont pas des indépendants, donc où on a plus de 4 adresses, qui ne sont pas des généralistes, qui proposent une offre complémentaire à la GSA, donc plus large, plus profonde et plus spécialisée. La première clé de succès, c'est la perception d'authenticité avec par exemple les attributs du petit faiseur. On va retrouver par exemple chez Paul tout un décorum, le bâti en menuiserie noire, la faïence blanche au mur, l'éclairage bien contrasté, le sol en damier, les tenues blanches avec la toque du boulanger et parfois le fournil en visuel dans le fond. C'est une des clés de succès de Paul qui a permis son développement en France et à l'étranger avec plus de 800 points de vente. L'authenticité aussi dans les codes du marché, les étals à plat, les ardoises et la craie, et surtout la signalétique à la main, comme on retrouve chez Whole Foods ou chez Trader Joe's aux États-Unis, mais qu'on retrouve aussi chez Naturalia en France. C'est très identitaire et ça permet d'avoir une communication plus personnelle, comme avec un artisan. L'authenticité encore dans l'ambiance des halles, et évidemment on retrouve beaucoup les codes des halles comme chez Grand Frais qui en a fait sa signature. On retrouve cet esprit chez Italie, on achète des produits frais dans les ateliers et on peut prendre des repas sur place, ça devient un tiers lieu, au même titre que la Communale qui vient d'ouvrir à Saint-Ouen, ou encore les halles Biltoki avec une dizaine d'adresses sur ce modèle qui sont épaulées par Carmila et Altarea. L'authenticité encore avec la bonne odeur des produits frais. Et on va jouer avec ce qu'on appelle le marketing olfactif et de diffuser des odeurs très identifiables et alléchantes comme le pain ou le croissant.
C'est le pain que vous sentez juste à côté de vous.
Oui, alors ça c'est la vraie odeur, mais ça fait penser justement au fait sur place. Et en complément, on trouve la seconde clé, sans quoi le succès ne serait pas nécessairement au rendez-vous, c'est les outils du commerce. Et les outils du commerce...
Ce sont les fameux 5P, donc le mix produit.
Le mix marketing que les enseignes justement offrent, les fameux 5P, exactement. Le P comme produit, avec un produit iconique. On a, par exemple, en pâtisserie, on le voit avec le merveilleux de Fred, par exemple, ou encore le donuts de Krispy Kreme. Le P comme la promo, on en a parlé, avec la capacité de dégainer toujours au bon moment, le bon produit, la bonne communication au bon moment, mais aussi jouer avec les temps forts, organiser la promo, avoir le 3+1 comme le fait Marie Blachère, ou encore le 50% de remise sur la dernière demi-heure avant la fermeture. Le P comme people, c'est l'aide au recrutement que fait les enseignes pour avoir les bons profils, mais aussi de bénéficier des experts de l'enseigne sur tout le réseau. Le P comme prix pour avoir les prix d'appel, pour bien gérer aussi son image prix, pour pouvoir proposer des produits d'impulsion, ce qui sont importants. Et peut-être le plus important, c'est le P comme place. Et là, l'emplacement adéquat dans le bon flux, c'est le cœur du commerce, sur les parkings des hyper pour certains, dans le flux des gares pour d'autres, ou encore les flux travail-domicile avec le parking associé, ce qui est très important, comme les fameuses boulangeries de rond-point. En conclusion, On mixe tous les codes de l'authenticité, de la proximité de l'artisan avec les outils du commerce pour trouver la recette gagnante.
Est-ce que vous êtes reconnu dans cette présentation d'authenticité ?
Dans certains pays, oui.
Ignestro.
Totalement, oui. On essaye toujours de mixer un ensemble d'éléments qui sont des codes que les consommateurs reconnaissent.
Alors, on a parlé effectivement de l'offre promotionnelle de Marie Blacher, qui est précurseur donc, de cette offre de vente en lot. 3 produits achetés, 1 offert. Cela vient de l'univers des fruits et légumes que Bernard Blacher connaît bien. Sur les réseaux sociaux, Marie Blacher est parfois surnommée Marie Pas Cher. Ce positionnement de prix bas peut-il fausser la perception quant à la qualité des produits ?
Aujourd'hui, il y a... la première chose qui cristallise le réseau et l'enseigne et l'image de marque de Marie Blacher, c'est la qualité des produits. Quand on parle avec quelqu'un qui connaît les produits Marie Blacher, il y a toujours quelqu'un qui vous dit « Moi, j'adore les madeleines. Moi, j'adore les brownies. Mon enfant, il adore les cookies. Moi, j'adore le pain. » il y a toujours un produit que l'on aime parce que Bernard Blacher, c'est un homme de goût. Donc, c'est lui qui sélectionne tous les, avant de parler de prix, c'est d'abord le produit. Il faut qu'il ait le produit au bon prix, le bon produit au bon prix. D'ailleurs, c'est notre slogan, et il est vraiment focusé sur ça. C'est de dire, on fait un produit, il faut qu'il soit bon, et après on travaillera sur le prix. Et si on peut le vendre, on le vendra. S'il passe pas en prix, on le vendra pas. Parce que l'intérêt, c'est qu'on ait des produits populaires, accessibles pour chacun, pour que toutes les familles puissent se nourrir. Vous parliez tout à l'heure du moins 50, c'est un peu sa volonté. La dernière demi-heure, plutôt que de gaspiller, mais ça date d'il y a 20 ans, plutôt que de gaspiller, ben on va faire les produits à moins 50. Aujourd'hui, on a des clafoutis à 5 euros. Quand une maman, elle vient et qu'elle peut s'acheter un clafoutis à 2,50 €, avec des fruits, des vrais fruits, hein, avec un vrai clafoutis, ben finalement, ça laisse une trace, ça laisse une marque, et ça veut dire que c'est un point de rendez-vous.
Vous venez de parler de gaspillage. J'aimerais justement à ce sujet qu'on regarde un extrait qui a été diffusé dans l'émission Sur le front, présenté par Hugo Clément sur France 5.
Ces baguettes finissent à la poubelle. Elles sont encore tièdes. Elles auront passé moins d'une heure sur les rayons. C'est ce qu'il se passe dans beaucoup de boulangeries, à quelques minutes de la fermeture.
Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas l'enseigne Marie Blacher qui a été montrée, mais tout de même, c'est vrai qu'on se pose la question quand vous proposez moins 50% sur les produits. Mmh. Jusqu'à 18h30, ils sont fabriqués et proposés à la vente. Est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau du gaspillage alimentaire ?
Non, non. Nous avons réglé ce problème depuis longtemps par le moins 50, et maintenant on a été beaucoup plus loin parce que maintenant on a même un moins 50 du matin. Donc, il y a une clientèle de moins 50, il y a une vraie clientèle, hein, de moins 50 à 19h ou 19h30, selon qu'on ferme à 19h30 ou 20h. Il y a une vraie clientèle. Il y a des gens qui viennent, qui font la queue, comme chez Hugues, qui font la queue pour justement pouvoir acheter des produits à moins 50. Mais on a également du moins 50 le matin. C'est-à-dire, quand vous rentrez dans une boulangerie de Marie, chez Marie Blacher, à droite, vous avez une échelle, et sur cette échelle, vous avez des produits à moins 50. Et ensuite, on travaille avec l'application Too Good To Go. Aujourd'hui, on a une prise en main de 99%, c'est-à-dire qu'on est proche du zéro gaspillage.
Donc, ces invendus sont tous transmis à l'association Too Good To Go. Quel est votre taux de
perte ? C'est pas l'association, c'est une application avec des gens qui achètent des produits à moins 70%, à moins 70%, et qui sont mis dans des sachets. On fait des paquets. Celui qui achète sur l'application Too Good To Go, il ne sait pas ce qu'il va acheter comme produit, mais il a des sachets qui sont à 5 euros, à 9 euros, et donc il paye 5 euros un sachet pour lequel il y a à l'intérieur, vous avez pour 15 euros de marchandise ou pour 27 euros de marchandise.
Et quel est votre taux de perte actuellement ? 3-5% en plus ?
0, on est 0, à la marge 2, quoi, on va dire.
Alors, les investisseurs surveillent les chaînes boulangères comme le lait sur le feu et y investissent. Louise, qui est numéro 3, est passée sous pavillon In Vivo Retail en 2022. In Vivo qui a également racheté le fournisseur de farine de Marie Blacher la même année. Quelque chose se prépare ?
Je pense qu'In Vivo aujourd'hui est un vrai acteur majeur et céréalier, notre premier céréalier français et très certainement dans le podium international. Je pense que Thierry Blandinière a une stratégie. La stratégie, quand il a racheté Soufflé, bien évidemment on n'a pas été averti, il a repris Soufflé, ça avait du sens parce que la famille Soufflé voulait sortir. Il se retrouvait à être lui des céréaliers finalement qui faisait notre farine. Bon, jusque-là il n'y avait rien à dire. Après, effectivement, ils ont jeté leur dévolu sur l'enseigne Louise, qui a 130 boulangeries, parce que finalement, ils ont voulu créer une stratégie du champ à l'assiette, on va dire. Et aujourd'hui, où en sont leurs résultats? J'en sais rien, je ne suis pas dans les secrets des dieux, je pense que vous, les journalistes, vous êtes mieux informés que nous. Mais aujourd'hui...
En 2021, il y avait des rumeurs de vente dans la presse, et finalement, rien ne s'est passé. Est-ce que c'était aussi une fuite orchestrée?
Des rumeurs de vente de Marie Blachère? Oui,
Marie Blachère.
Ça a été en 2000.
Pour jauger la valeur.
2021. Je rappelle que l'entreprise appartient à la famille Blachère, à Bernard Blachère.
À 100%.
Toujours actuellement. Et donc, oui, il y a eu des rumeurs. Enfin, effectivement, des gens qui se pressent pour venir voir Bernard Blachère, il y en a. Après, c'est bien que l'on parle à tout le monde. Finalement, on est heureux de parler à tout le monde. Mais pour l'instant, rien ne se prépare et il n'y a rien dans les tuyaux, si c'était votre question.
Vous avez 35 000 clients mensuels, un chiffre en augmentation, Hugues Mestreau. Qu'est-ce qu'ils achètent le plus chez vous?
On a un top 7, on n'a pas véridiquement un produit phare en termes de quantité. Dans le top 7, on est sur...
Est-ce que ce sont les produits que vous nous avez emmenés aujourd'hui en plateau?
En l'occurrence, des variétés anciennes de céréales, donc comme le Corazan et le Camut, ou le Petit Épeautre que vous n'avez pas ici. Vous avez de la Briocherie qui sont juste ici. Et ensuite, effectivement, la partie quiche, qui est une partie traiteur. Mais ça va être les trois segments principaux du top 7.
Ça a l'air succulent, effectivement. Alors, vous enregistrez une belle évolution par rapport au dernier exercice d'exploitation, plus 22% en chiffre d'affaires, plus 18% en clients. C'est ce qui vous a poussé à ouvrir une seconde boulangerie en juillet?
Oui, exactement. On a voulu étendre notre savoir-faire, notre identité qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire sur l'ultra-artisanat qu'on défend, à travers ce deuxième magasin qui sera à quelques numéros du 18, donc au 26 rue des Martyrs.
Alors c'est drôle ça, pourquoi ouvrir une boulangerie dans la même rue que la première?
Alors c'est l'occasion qui s'est présentée, je connaissais indirectement par des amis le gérant de cette structure.
C'est du bouche à oreille.
C'est du bouche à oreille, exactement, voilà, qui nous a permis d'y accéder. Donc l'opportunité s'est présentée, on l'a saisie. Et en l'occurrence, l'objectif c'est vraiment d'aller sur un complément de gamme qui va être totalement différent de celle qu'on propose aujourd'hui dans le premier magasin.
Donc des nouveautés au programme?
Des nouveautés au programme. Il y a tout un travail de traiteur qui va être organisé sur des plats cuisinés, sur l'accompagnement pâtisserie, donc vraiment sur du dessert qui va accompagner ces plats cuisinés. Et une gamme de produits pain et viennoiserie dans un format différent et des viennoiseries qui vont être sur un complément qu'on ne propose pas aujourd'hui comme des pliers, des viennoises, des choses sur lesquelles qui seront un peu plus traditionnelles, mais qui seront un complément. Gamme une fois de plus du 18.
Jean-Marc Conrad, la concurrence arrive. vous accélérez.
C'est la naissance d'une chaîne.
Effectivement, c'est comme ça que Bernard Blachère avait commencé.
Exact,
aussi.
Le pain retrouvé est une chaîne.
Quatre adresses.
Ouais. Deux adresses, on n'y est pas encore.
L'important, c'est le premier maillon.
On conserve cette identité-là, en tout cas.
Pied au plancher, vous tablez pour cela sur la franchise. Le groupe Blachère semble pourtant avoir la capacité financière pour se développer en propre. Pourquoi ce choix?
Ben parce qu'aujourd'hui, la demande est forte, on l'a dit tout à l'heure, effectivement, il y a beaucoup de gens qui souhaitent venir dans ce métier parce que pour beaucoup, il semble très dynamique. Et aujourd'hui, nous avons une stratégie qui va même plus loin que la franchise, c'est-à-dire que effectivement, on a des porteurs de projets qui se présentent et qui veulent monter des projets Marie Blachère. On a aujourd'hui une trentaine de franchises et on se rend compte qu'on a des niveaux de performance, bien évidemment, qui sont supérieurs au réseau traditionnel, enfin, et on va même aller plus loin aujourd'hui puisque à partir de septembre, on lance la location gérance de boulangerie Marie Blachère à naître ou déjà du réseau. C'est-à-dire que on a des porteurs de projets qui se présentent, on a également des salariés qui émettent le souhait aujourd'hui, qui sont arrivés à maturité, qui arrivent à 35-40 ans, qui ont envie de s'émanciper et qui veulent avancer dans l'ascenseur social. Ben, finalement, c'est des jeunes, hein, et c'est normal. C'est la vie du commerce. Et aujourd'hui, on a envie, et Bernard Blachère a ce souhait de vouloir mettre un marchepied à tous ces jeunes pour créer et intégrer le réseau en location gérance, c'est-à-dire de mettre à disposition des fonds de commerce de boulangerie Marie Blachère pour qu'ils puissent les exploiter dans de bonnes conditions, gagner leur vie et être à leur compte. Et
juste en 30 secondes, quels sont les pays ou les zones où vous souhaitez vous implanter pour les prochaines années?
Alors aujourd'hui, on étudie beaucoup de pays. On a ouvert les États-Unis où on va commencer à développer la franchise. On a créé des pilotes, on a trois pilotes, mais on y va avec beaucoup de prudence parce que les États-Unis, ça pays très complexe. On a lancé l'Iberico, c'est-à-dire qu'on a lancé le Portugal avec succès. Aujourd'hui, on vient d'ouvrir la quatrième, on va en ouvrir une cinquième dans très peu de temps. Voilà, donc là, il y a une chaîne Marie Blachère qui est vraiment née là-bas. On a ouvert la Belgique, on a ouvert le Luxembourg, on est sur la Suisse, on est sur le Canada très prochainement. Voilà, donc
l'offre est toujours la même qu'en France, dans tous ces pays ?
Le tronc commun, oui, après, avec une adaptation régionale.
Le chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, Julien, qui concerne l'artisan boulanger.
Et oui, puisque les Français plébiscitent l'artisan boulanger du quartier, avec 59% des Français qui préfèrent acheter leur pain chez le boulanger pour son goût. Et 97% d'entre eux qui se sentent bien accueillis. Rappelons que c'est 6 milliards de baguettes vendues par an en France. Une baguette sur deux est vendue chez le boulanger, le petit boulanger. Une sur cinq en grande surface. Une sur dix dans une chaîne de boulangerie comme Marie Blachère. Une sur 20 dans une ancienne de hard discount. Et que une sur 50 au marché. Et 5% des Français déclarent ne jamais acheter de pain. Ce qui renforce bien la nécessité pour les enseignes de s'approprier les codes de l'artisanat. Reste encore à trouver les boulangers, car le secteur perd 25% des apprentis la première année, dû aux contraintes du métier, qu'on comprend bien, les horaires, les fortes chaleurs dans les fours, le travail le week-end, ce qui est moins attractif aussi pour la nouvelle génération.
Et c'est vrai que vous me parliez tout à l'heure du CAP d'artisan tourier, c'est ça ?
Exactement, c'est un CAP qui est en train de se remettre en place par le syndicat des boulangers-pâtissiers de Paris, notamment sur l'obtention d'un nouveau CAP tourier qui a pour but de fabriquer la viennerie maison.
Voilà, et qui pourra motiver les prochaines générations. Merci à tous les trois d'être venus cette émission avec moi. On se retrouve semaine prochaine, même heure, même endroit. À très vite.
Focus Retail. La distribution de demain s'invente aujourd'hui.